et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Eh oui, bonjour à tous, de retour du travail.
Et de Morgan.
Bonjour à tous, un petit peu malade, hein. Désolé pour ma voix un petit peu suspecte.
Voilà. Alors, Morgan, par contre, avant de commencer, j'ai une question qui m'a été posée à laquelle tu ne vas pas échapper.
J'écoute.
C'est une question qui a été posée par Lataigne dans les commentaires du dernier podcast et qui demandait tout simplement « As-tu l'intention de jouer à Shadow of War, donc la suite de Shadow of Mordor ?» Toi qui avais plutôt apprécié le premier, je crois.
Ouais.
Malgré ces quelques entorses, on va dire, assez flagrantes au lors du Seigneur des Anneaux et vu ce qu'on a vu de Shadow of War, ce sera encore plus violent dans la suite.
Oui.
Mais est-ce que tu as l'intention de t'y attaquer ?
Ouais, bah alors déjà salut, merci pour ta question. Bah a priori ouais, j'ai bien l'intention d'y jouer. Je sais pas si je vais l'acheter day one parce que j'ai plus trop l'habitude d'acheter les jeux day one. Mais en tout cas ouais, c'est évidemment un jeu que je surveille énormément. C'est Shadow of Mordor, c'est un jeu qui avait pas mal, enfin que j'avais apprécié malgré ses défauts, notamment sa répétitivité. Et je pense que voilà, Shadow of War va apporter un peu plus de variété. Et du coup, c'est forcément un jeu que je surveille de coin de l'œil depuis son annonce. Donc ouais, tu peux t'attendre à ce que j'en parle un de ces quatre.
Et puis, c'est un des rares AAA qui a l'air de proposer des choses originales, encore une fois grâce au système Nemesis.
Bien sûr.
Qui a encore été amélioré, donc c'est toujours intéressant. Mm. Même si, encore une fois, j'insiste, à chaque fois je vois des bandes annonces de ce jeu, j'ai des envies de meurtre. Parce que... Il y a des choses que tu peux pas faire avec le lore du Seigneur des Anneaux, c'est pas possible. Allez. On va commencer, messieurs, donc, au sommaire de l'actualité cette semaine. Nous vous parlerons de Phantom Doctrine, Phantom Brigade aussi. On enchaînera ensuite sur Tiny Metal. On parlera de Sonic Mania, de Elle est Noire et de Okami. Si vous voyez des gens anciens dans cette liste, c'est normal, hein, voilà. Il y a le retour des morts vivants cette semaine, vous allez voir. C'est...
Oui. Ils sont sortis.
Sans oublier une petite discussion qu'on aura tout à l'heure suite à une énorme polémique qui a eu lieu outre-Atlantique, n'est-ce pas, qui s'est propagée de par chez nous. Vous allez voir, c'est une polémique par rapport à une vidéo qui a circulé sur Cuphead. Normalement, avec ça, vous savez de quoi on va parler. Allez, on va commencer donc avec Phantom Doctrine. Phantom Doctrine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est un XCOM-like, mais attention, qui se déroule pendant la guerre froide, rien de futuriste, tout ça. Vous allez me dire, ouais, tiens, t'es bien gentil, XCOM, bon, voilà, je ne tiens la campagne, tout ça, j'en peux plus, avec mes GG à 90% qui ratent tous, j'en peux plus de XCOM. Mais attendez, attendez, Phantom Doctrine est intéressant, pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'un simple clone de XCOM qui se déroule pendant la guerre froide, non, 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 monsieur, vous allez jouer des espions, et qui met donc une emphase beaucoup plus poussée sur le côté infiltration déjà. Et ensuite, il y a tout un côté gestion des agents, kidnapping des agents adverses. Par exemple, petite feature que je trouve très sympathique, tu peux kidnapper un agent adverse, mettre un key switch, vous savez, un mot-clé que vous allez prononcer comme ça, et qui va le pousser à faire certaines actions contre son camp, par exemple. Ou alors tu peux essayer de le convaincre de se rallier à ta cause. Par contre, ce qui est marrant, c'est que les gars en face, ils peuvent faire la même chose aussi. Et imaginons par exemple, vous finissez une mission, vous avez laissé un agent sur le terrain, mais quelques temps plus tard, il revient, et il y aura une possibilité qu'il soit devenu un agent double. Mais pas forcément. Et c'est là où ça devient super pervers, parce que vous savez que si vous avez joué à XCOM, on s'attache à ces personnages, tout ça. Ouais. Et forcément, c'est un peu un déchirement parce que tu vas voir ce mec arriver, tu dis alors est-ce que je le bute ou est-ce que je lui laisse sa chance au risque qu'il me poignarde dans le dos en pleine mission. Donc vraiment, moi je trouve le concept super cool, il y a plein de features comme ça. Bon alors après techniquement c'est pas ouf, hein, mais ça reste très propre et en tout cas rien que pour le concept, moi j'en redemande.
Non, très intéressant cette histoire d'agent double. J'étais justement en train de t'écouter et me demandais l'intérêt de faire encore un autre XCOM, alors que pour le coup, les XCOM-like, c'est des jeux qui sont très chronophages. Mais avec ce supplément de concept, ça peut être très intéressant, ouais.
Moi, je t'avoue que s'ils avaient juste vendu un autre XCOM, bon, je veux dire, XCOM, j'y ai déjà joué, c'est un jeu, t'en ressort... T'es lessivé, d'ailleurs, le 2, personnellement, j'ai arrêté parce que... Encore une fois, les tirs à 90% qui ratent, moi, ça m'a traumatisé hein, sur XCOM. Enfin, je trouve qu'il a une difficulté qui est assez spéciale quand même. Hein.
Ouais.
Quand tu rates plusieurs fois de suite des tirs qui sont a priori pas beaucoup ratables, ça commence à devenir super relou, surtout quand tu sais que derrière, la mort est ultra sanctionnée dans ce jeu, donc voilà. Bref, en tout cas, toujours heureux qu'on ait plus de jeux tactiques, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, bougez pas, parce que on a un autre fantôme sur le feu, n'est-ce pas ? Alors celui-là, il s'appelle Phantom Brigade, hein, attention, ne pas confondre avec Phantom Doctrine. Donc Phantom Brigade, qu'est-ce que c'est ? Alors là, pour le coup, c'est un peu différent. Alors il y a toujours un peu de XCOM dedans, mais ça, c'est plus pour le côté gestion de la campagne, on va dire. C'est-à-dire que vous aurez une world map, etc., où vous allez devoir gérer les zones que vous allez attaquer, défendre, etc. Mais par contre, là où ça devient intéressant, c'est que c'est surtout un hommage à Front Mission. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Front Mission, c'est un jeu tactique, donc RPG tactique, avec des mechas, avec une customisation assez poussée. C'est-à-dire que c'était un jeu, par exemple, où pendant les combats, tu pouvais viser des parties spécifiques d'un mecha. Par exemple, si tu visais l'arme avec laquelle il tirait et que tu détruisais cette arme, bah il avait plus d'arme, par exemple. Et en fonction de la partie que tu visais, tu pouvais plus ou moins handicaper le mecha adverse, et inversement. C'est-à-dire que si tu pètes les jambes, bah il peut plus bouger. Ce genre de choses. Donc, il y a tout ce côté-là. En plus, il y a un côté customisation qui est là assez poussé. Dans la vidéo qui est diffusée, ils s'amusent un peu à customiser les châssis, etc. Ils expliquent que tu auras un châssis de base, en fait, et que tout autour, tu pourras customiser tes mechas comme tu veux. En plus de ça, il y a un truc qui ressemble diablement au système de Nemesis, celui de Shadow of Mordor, hein, dont on parlait tout à l'heure. Tout est prévu dans ce podcast.
Tout est lié.
Voilà. Où donc, vous allez affronter des adversaires sur le terrain, et il se pourrait que vous affrontiez de nouveau ces adversaires plus tard. Et que, s'ils ont tué vos potes, vos gars vous s'en souviennent. Après, je sais pas à quel point ça influencera le gameplay, mais c'est intéressant. Par contre, petit reproche, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est très light sur le scénario. En tout cas, vu la campagne de com qu'ils font autour, ils insistent beaucoup sur les features et le scénario. Je suis allé sur le site, ils en parlent quasiment pas. Donc je pars du principe que c'est vraiment un XCOM-like sur ce point-là. C'est-à-dire que c'est plus quelque chose, tu sais, d'empirique. On va laisser le joueur partir dans sa propre histoire. Alors que quand même, Front Mission, l'une des forces de cette licence, c'est le fait que c'est de la grosse histoire, quoi, tu vois, c'est avec complot politique, tout ça, machin, où t'as des liens entre les différents jeux, etc. Bref. Bon, après, ça, c'est plutôt le fan de Front Mission qui parle, hein, évidemment. C'est pas fondamentalement un reproche, c'est juste que quand ils ont commencé à me hyper sur les mécaniques, j'ai commencé à me hyper sur le scénar et j'ai vu ensuite que c'était pas ça, donc un peu déçu. Mais écoutez, j'aime tellement les mécaniques de Front Mission à la base que rien que pour ça, ça m'intéresse. Et puis un XCOM-like, au niveau de la campagne, c'est pas non plus de refus. Voilà. Autre reproche, techniquement, c'est pas ouf, mais surtout, je trouve que en termes de rendu, c'est comme si tu jouais sur un plateau, en fait, et j'ai pas l'impression de voir des vrais mechas qui se tapent dessus, quoi, si tu veux. Et ça fait très très bizarre, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a choqué comme ça.
Mais après, peut-être que c'est voulu par les développeurs d'avoir justement ce côté jouer avec des décors.
J'ai pas l'impression. Enfin, vu le pitch qu'ils font autour, j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas, quoi.
Bah, je sais pas, parce que même quand tu regardes le rendu des bâtiments, ce genre de choses-là, ça fait très plateau et puis même un peu maison de poupée, quoi, en fait. Et du coup, je pense qu'à mon avis, ça doit être voulu par les développeurs, quoi, d'avoir un rendu comme ça.
Je sais pas, parce que encore une fois, tout le délire, oui, il a tué mes potes et je m'en souviens, et les dialogues sont premier degré, je trouve que ça colle pas avec ça. Enfin, bref, voilà. T'auras compris, moi, je suis pas convaincu par le délire, en tout cas, si c'est vraiment ça. Parce que honnêtement, je suis quasi convaincu qu'en fait, c'est une question de budget et que c'est juste qu'ils ont ce rendu là parce qu'ils ont pas les moyens de faire un truc ultra réaliste avec le budget qu'ils ont, quoi. C'est quand même une toute petite équipe, apparemment. Dans tous les cas, ce que je trouve super cool aussi, c'est qu'il y a tout un tas de features au niveau de la destruction des décors, etc. Donc bref, moi c'est un jeu que j'attends en tout cas et que je surveillerai. Bon, Ren, toi qui aimes bien les trucs tactiques, je ne sais pas si ça t'intéresse ou...
Probablement, après, les tactiques en général ça prend du temps, donc je vais peut-être attendre, tu sais, moi je vais commencer par XCOM 2 et puis on verra après pour les autres.
Par contre, bouge pas, Maren, parce qu'il y a un truc qui devrait t'intéresser, ça s'appelle Tiny Metal, je crois.
Oui, et ça, pour le coup, ça m'intéresse. Tiny Metal, c'est donc, évidemment, enfin, évidemment, c'est un petit peu la mode du jour d'annoncer un clone d'Advance Wars, alors
Maren,
que...
Maren, tu exagères, il y a deux jeux comme ça, quoi.
Oui, non, mais tu vois, deux, ça suffit pour être une mode pour moi, mais bref... Voilà, c'est un nouveau clone d'Advance Wars qui, pour le coup, lui, au contraire de Wargroove, qui est plutôt médiéval chez Chuck
et qui
Fish,
a rendu pixel art.
Voilà. Au contraire de Wargroove, Tiny Metal, lui, est plutôt sur une esthétique de guerre moderne, avec évidemment le côté un petit peu mignon que les Japonais sont capables de réaliser. Voilà. Et donc, sinon, en termes de gameplay, ça ressemble vraiment à ce qu'était capable d'apporter Advance Wars à l'époque, à savoir
qu'Advance... Alors d'ailleurs, à ce propos, juste une remarque, l'interview du gars qui a sur PC Gamer, je crois.
Ouais.
Moi, elle m'a fait mourir de rire parce que t'as le mec qui dit ouais, non, on voulait pas faire exactement la même chose qu'Advance Wars, on voulait apporter des choses nouvelles à la formule. Ouais. Et du coup, quand tu attaqueras les unités par derrière, tu feras plus de dégâts. Ouais, je suis pas convaincu que, tu vois, ça change fondamentalement le gameplay, c'est juste un ajustement, enfin, c'est...
Cela dit, ça peut être intéressant. Ça manquait à Advance Wars, hein, l'air de rien, ce genre de, voilà, la prise en compte des côtés, et aussi de l'arrière.
Après, si tu veux, je dis pas que c'est inintéressant, mais ça révolutionne pas la formule. Tu peux pas dire que t'apportes quelque chose de nouveau sur la table, alors que certes, peut-être pour la formule Advance Wars c'est nouveau, mais pour le tactical RPG en général, je veux dire, voilà, c'est pas le premier tactical RPG où quand t'attaques par derrière, bah tu fais plus de dégâts. Hein, ça.
Clairement. Non, mais j'ai l'impression quand même que l'absence d'Advance Wars depuis 8 ou 9 ans fait un petit peu plaisir aux gens qui se disent bah tiens, je vais ressusciter un petit peu le délire, mais bon, je vais pas trop me fouler. C'est un peu ça, derrière Tiny Metal, qui annonce, voilà, trois features nouvelles, entre guillemets, où c'est un brouillard de guerre un peu différent. Bon, il l'a pas épilogué là-dessus, donc faudra voir. La prise en compte des côtés et de l'arrière, et le fait qu'on puisse targeter une même unité avec plusieurs unités aux alentours.
Et que tu puisses la pousser aussi, je crois, j'avais compris ça, ou c'est moi qui...
Ouais, alors ça, j'ai pas dû faire attention, mais bref. Ça va pas révolutionner la roue, ça sort sur Switch, PS4 et sur PC. Et ma foi, ça a l'air plutôt mignon. Ça sort à l'automne 2017, donc c'est pour bientôt. Donc à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus.
Alors par contre, une petite remarque. Je rappelle que Tiny Metal, c'est un projet qui a par deux fois essayé de se financer sur Kickstarter. Et qui part deux fois à échouer, n'est-ce pas?
Dure.
Donc j'ai très peur que en termes de finition, ça soit pas ça.
Ouais.
Parce que s'ils cherchaient un budget à l'époque, c'est peut-être qu'ils en avaient besoin. Ou alors qu'ils en avaient pas besoin, c'était juste une campagne de pub. C'est une possibilité aussi que je n'exclus pas. Il faudra quand même le surveiller avec attention, mais avec méfiance. Voilà.
Ouais.
Et moi, ce que j'aime beaucoup avec ce genre de jeu, en fait, c'est que, bah, contrairement au jeu de mecha qu'on parlait précédemment, là. Tu joues vraiment à faire la guerre et c'est ça qui est vachement cool en fait. Ça se prend vraiment pas du tout au sérieux et je trouve ça bien surtout de sortir sur une console comme la Switch en fait, vu qu'on sait que en général voilà, c'est une console un peu plus familiale que la PS4 ou la Xbox One. Et du coup, tu vois, si tu donnes ce genre de jeu à ton fils, même si c'est un jeu de guerre entre guillemets, tu peux donner ça à un enfant et il peut y jouer sans problème en fait. Et c'est ça que j'ai
le rendu, c'est des jouets en plus quoi. Enfin, je veux dire
Oui, c'est exactement ça.
Oui, bah voilà, c'est comme à l'époque, tu vois, Advance Wars, c'était les bleus qui faisaient la guerre contre les verts et les rouges et puis voilà. Bon, certes, c'était un peu des parodies de l'URSS etc. Mais ça restait toujours très mignon, très cartoon, et c'est ça qui est vachement cool. Mais par contre, c'est un petit peu dommage que pour ce genre de jeu-là, qu'il n'y a pas de version aussi, tu vois, 3DS ou un truc comme ça, parce que pour moi, typiquement, ce genre de jeu-là, c'est plus un jeu portable en fait.
Bah, tu y joueras sur Switch, mon cher.
Non, mais, la
Switch, la version portable, c'est sur Switch que ça se passe.
La Switch, là, c'est pour moi, c'est, on va dire entre guillemets, c'est la plateforme idéale pour ce genre de jeu en fait.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
Après, tu vois, là pour le coup, contrairement au jeu précédent, je trouve que le délire est cohérent visuellement, quoi.
Ouais.
C'est coloré, c'est mimi, le rendu est lisse, ça fait jouet, ouais, on est dans le délire.
Par contre, on en a pas entendu trop parler, mais j'aimerais bien que, tu vois, ils poussent le délire un peu humour grotesque à fond dans le jeu, en fait.
Mmh. Ouais, bah c'est vrai qu'Advance Wars, en plus, avec un côté parodique, je trouve.
Ouais.
À l'origine. Donc,
c'est ça.
Enfin, bref.
Ouais.
Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe à la suite.
Ouais.
C'est le trollo de la semaine, et le trollo de la semaine, c'est encore Sonic Mania. Alors juste une petite remarque comme ça au passage, ça y est, il est craqué. Donc nous remercions tous les acheteurs de la version PC qui doivent se taper des nouveaux, et pendant ce temps les pirates, ils se tapent la supérieure version, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc merci aux acheteurs, tout ça, vous retiendrez la leçon, ne précommandez pas les jeux. Voilà. Salut.
Non, bah au bout d'un moment, il va falloir arrêter avec des nouveaux, hein. Visiblement ça ne sert à rien, donc arrêtez tout simplement.
Voilà. Allez, Alors là, pour le coup, tu veux me faire un petit package, Morwan?
Ouais, une petite doublette.
Alors le package, c'est deux jeux qui reviennent des enfers.
Ah oui, c'est exactement ça.
C'est Elle est Noire et Okami.
Ouais, Elle est Noire a été annoncé par Rockstar sur PS4 et Xbox One, mais aussi sur Nintendo Switch. Et alors c'est marrant, pourquoi? Parce que ça faisait, je crois que ça faisait 8 ans que Rockstar n'avait pas sorti de jeu sur une plateforme Nintendo. La dernière fois, c'était GTA Chinatown Wars, c'était sur DS. Donc c'est plutôt étonnant.
Bah quoi, ils attendaient que Nintendo sorte une plateforme qui puisse faire tourner leur jeu, quoi. C'est tout.
Visiblement. Non mais tu vois, attends, GTA Chinatown Wars, pour le coup, ils s'étaient fait chier eux-mêmes à faire un jeu spécifique pour la plateforme. Mais bon, c'est
oui,
vrai que c'était la DS,
GTA,
parce que DS, voilà.
GTA Chinatown Wars, c'était pas exactement les mêmes coûts de développement qu'un jeu...
Oui.
Sur une console à peu près récente, hein, entendons-nous bien.
Oui, et puis c'était aussi pas les mêmes chiffres de vente pour la console.
Oui, voilà.
Aussi.
Bah d'ailleurs, je crois qu'effectivement, il me semble que Chinatown Wars sur DS, il s'était planté, mais
ah ouais.
Un truc assez monstrueux. Et puis après, du coup, ils avaient sorti le jeu sur iOS, Android,
oui,
et puis
vrai.
Même sur PSP en fait. Moi, j'avais joué un petit peu à la version PSP, mais bon, ça m'avait très vite saoulé cette vue du dessus. Des GTA à l'ancienne, en fait, c'était vraiment le GTA tel qu'on avait connu à l'origine, en fait, GTA 1 et 2 qui étaient sortis sur PS1 à l'époque.
C'est tout à fait ça.
Ouais, avec un rendu juste cartoonesque, on va dire.
Mm-hmm. Mais ça passait bien, moi j'avais bien aimé Chinatown Wars. Bon, je l'avais pas terminé parce qu'au bout d'un moment, tu tournes en rond, mais c'était plutôt sympa.
Par contre, ce que je trouve assez intéressant sur la Switch, pour sortir un jeu comme Elle est Noire, c'est que... C'est pas un jeu qui a été sorti sur console Nintendo parce que la Wii ne pouvait pas le faire tourner à l'époque. Non. Sur la Wii U, il n'est pas sorti. Du coup, peut-être que tu vois, ça peut redonner un peu d'intérêt à ce titre-là qui, certes, avait pas mal de défauts, mais je pense qu'il voulait apporter à l'époque en termes de gros jeux AAA. Il y avait quand même pas mal d'idées novatrices, notamment en termes de rendu visuel des acteurs et ce genre de choses-là. Donc, c'est pas mal que des jeux comme ça ressortent pour justement donner une deuxième chance à ça, quoi. Mais par contre, pour Okami, Okami, c'est un jeu qui est ressorti maintes fois. On a l'impression que Capcom, ils ont toujours pas digéré que le jeu a fait un bid monumental à l'époque de sa sortie sur PS2. Du coup, peut-être qu'il sera rentable 10 ans plus tard, quoi.
Alors, bon, du coup, donc ça, c'était la deuxième partie. C'est effectivement Okami va sortir sur PC, Xbox One et PS4. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première fois qu'il sera disponible officiellement sur PC.
Alors, Elle est Noire, c'est quelle date? Par contre, on n'a pas dit, il me semble.
Alors, c'est fin d'année. Je vais te chercher la date.
Le 14 novembre.
14 novembre, exactement. Et alors, je l'ai pas noté, mais il y aura aussi une des fonctionnalités VR pour les consoles qui les supportent.
Par contre, précisant que pour Okami, ce n'est pas une annonce officielle. Il y avait une rumeur qui avait été relayée par Kotaku il y a quelque temps.
Ouais.
Et c'est en fait cette rumeur a été confirmée récemment par un distributeur, il me semble. Ah non, voilà, c'est le système d'évaluation sud-coréen en fait. Excusez-moi,
ouais.
Qui a classifié le jeu, donc s'il est classifié a priori,
ouais.
Ça puce les rumeurs de Kotaku, donc... Bon, après, Okami, il n'était pas sorti sur PC non plus. Hein. Bon, c'est vrai qu'on avait déjà la supérieure version en émulation, ok, d'accord, mais techniquement, elle n'était pas sortie. Donc, ceux qui avaient des scrupules à y jouer en version émulée, ben écoutez, vous aurez une version propre, enfin, propre.
À
je
voir.
Suppose, hein. On verra. Normalement, s'ils sont pas trop cons, ça sera propre, mais voilà. Bon, après, moi, Okami, vous savez, c'est un jeu que j'adore. Pour moi, c'est un des meilleurs Zelda-like ever. C'est même le meilleur Zelda-like ever, donc voilà.
Mais par contre, moi, j'ai une petite commande à faire à Capcom. Ressortez-nous une compilation avec les Onimusha, s'il vous plaît. Non, parce qu'en fait, moi, enfin, si tu veux, les jeux qui ressortent en HD, machin chouette, ça me saoule un petit peu. Mais par contre, si c'est une compile pour avoir toute la saga... Là, du coup, ça m'intéresse un peu plus.
Je vous trouve un peu sélectif, monsieur ATH. Hein. Donc, quand c'est pas des licences qui vous intéressent, voilà. Hein. Mais par contre, quand c'est Onimusha, hein, tout de suite...
Non. Mais on s'est pas compris. Si ils ressortent des compilations de séries où il y a tous les jeux compris dans un seul CD, ça me convient parfaitement parce que du coup, t'achètes juste le CD et puis t'as la collection complète. Par contre, quand c'est des jeux qui sont déjà ressortis, on va prendre le Capcom avec Resident Evil 4. Resident Evil 4, il y a que mon four à micro-ondes qui le fait pas tourner actuellement, quoi. Et moi, ça me saoule un petit peu à chaque fois qu'ils ressortent la version PS3, la version PS4, la version Xbox 360, la version Wii, la version machin chouette. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon, ton jeu... La personne qui a voulu jouer à Resident Evil 4, il a eu l'occasion maintes fois de le refaire, quoi.
Bah après, il y a pire, hein. Il y a Skyrim.
Alors que, oui, c'est vrai. Mais alors que par contre, s'ils nous sortent une collection Resident Evil avec tous les opus sur un seul et même jeu, sur la version PS4 et Xbox One PC, ils nous disent, voilà, vous avez la compilation complète refaite pour votre console actuelle. Là, du coup, je trouverais ça plus intéressant, tu vois. S'il y a tous les jeux inclus dans un seul, ou enfin, même dans un seul coffret,
après,
quoi.
Après, ATH, on parle de Capcom.
Non, mais c'est pour ça.
Voilà. Non, mais ne prenons pas nos désirs pour des réalités non plus. Hein.
Bah, attends, ils ont bien fait DMC, donc je pense que Onimusha, c'est moins populaire que DMC, mais sait-on jamais, quoi. Capcom, faites-vous des sous.
Bah, après, Onimusha, est-ce qu'aujourd'hui encore les gens savent ce que c'est? Je suis pas convaincu, tu vois.
Bah, mais, justement, ça, c'est l'occasion de redécouvrir des très bons jeux qui étaient sortis à l'époque, dans une résolution un peu meilleure, et puis avec, s'il faut, des contrôles un peu plus travaillés, quoi.
Et de l'anti-aliasing, surtout, beaucoup d'anti-aliasing.
Oui, parce que la PS2, bon. Ça mal vieillit.
Voilà. Allez, on va passer au gros morceau de la semaine, déjà, mais écoutez, les news étaient là, cette semaine. Hein.
Ouais.
On va pas les inventer non plus. Mais par contre, ce bout-là, je pense qu'on va y passer à un moment. C'est une polémique qu'il y a eu cette semaine. Alors, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas vraiment envie de parler de la polémique en elle-même, mais il va bien falloir l'évoquer pour ensuite passer au vrai sujet. Enfin, à mon sens, en tout cas. À savoir que, donc, il y a une vidéo qui est sortie d'un journaliste. Un journaliste qui a pu jouer à Cuphead, à la Gamescom.
Ouais.
Et il se trouve que c'est une souffrance de le voir jouer. Hein. Quoi qu'on pense la vidéo, enfin pour ce qui me concerne,
c'est compliqué. Ouais.
Ça me rappelle, tu sais, ces moments que je passais où je jouais avec mon papa, tu vois, et où il avait pas des réflexes en fait qui sont naturels pour moi, quoi, si tu veux. Et quand toi t'es un joueur et que tu dis mais non il faut faire ça, tu t'énerves en fait. Et je disais putain mais pourquoi tu fais, tu vois, parce que pour toi c'est naturel et tu comprends pas en fait.
Bah surtout la meilleure chose c'est sur quel bouton je dois appuyer pour sauter, c'est X. Attends, je regarde la manette. Alors X c'est ce bouton là. Et sauf qu'il le fait, tu vois, c'est pas naturellement dans l'action. Et tu me poses la question 2 minutes après. C'est quel bouton pour sauter?
Moi il me posait pas la question papa parce qu'il savait que il connaissait son fils et que j'étais très agressif dans ces moments-là. C'était plus fort que moi en plus, hein. Ça t'agace en fait. Ça t'énerve. Voilà, ça je comprends. Quand tu sais jouer, que tu vois quelqu'un qui sait pas jouer, tu vois, t'as juste envie de lui prendre la manette et lui dire attends. T'as l'air d'avoir du mal, là. C'est trop douloureux de te voir jouer, donc voilà. Alors, c'est ce type d'expérience-là, quand tu vois la vidéo, le mec sait pas jouer. Et là, tout un pataquès qui s'est mis en place. Les journalistes, regardez ces journalistes qui viennent parler de jeu ensuite. Les mecs, ils savent pas jouer et tout.
D'où viennent ces commentaires aussi, hein. Ça a beaucoup tourné chez les GamerGaters, hein.
Ouais, bon, après, honnêtement, je suis même pas sûr que ce soit que les GamerGaters. Hein. J'ai tendance à penser que dans le jeu vidéo, c'est vrai, oui, on est élitiste. Et on est élitiste plus qu'au cinéma. Pourquoi? Parce que on est un média où tu n'es pas passif, où tu peux te la péter, en fait, même, j'aurais tendance à dire. Et où il y a une certaine fierté, tu vois, à savoir faire les choses. Et je pense que même quelqu'un qui n'est pas un GamerGator peut avoir tendance à mépriser ces sales casus, tu vois, qui ne savent pas jouer. Par exemple. Parce qu'il n'y a pas que les GamerGaters qui parlent des casus et ce genre de choses.
Non, hein. Non, non, mais voilà. Bien sûr. Mais il faut aussi préciser que la truc a été montée en épingle à partir du moment où un mec affilié au GamerGate a coupé, a charcuté la vidéo qui fait 26 minutes pour en faire un truc de 2 minutes 30 pour bien insister sur toutes les conneries que le mec a fait. Et effectivement, c'est douloureux à regarder.
Même la version longue, c'est une souffrance.
Non, mais bien sûr. Mais voilà, c'est hyper important aussi de préciser d'où ça vient, tout ça.
Ouais, mais ça, c'est normal. C'est comme des gens qui font une citation, qui reprennent une citation dans un paragraphe, ils reprennent que les passages intéressants pour te faire voir ce qu'ils ont envie d'aller voir. Alors que si tu...
C'est aussi un acte. Le mec savait très bien ce qu'il faisait.
Je précise quand même que clairement, le mec ne sait pas jouer, mais à la limite, on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que, de toute façon, le mec est journaliste économique en jeu vidéo. Son boulot, ce n'est pas de critiquer les jeux. Donc, il n'y a pas de polémique, de toute façon, c'est pas son boulot.
Oui, parce que il le dit lui-même, hein, c'est pas lui qui va écrire le test quand le jeu sortira, donc c'est lui qui a sorti la vidéo à la base, parce qu'il trouvait que c'était rigolo. Et d'ailleurs, sa rédaction a trouvé ça aussi rigolo. Et bref, le fait est que c'est parti en couille de façon assez monumentale. Donc, il s'en mord un petit peu les doigts, mais il a réagi plus tard, d'ailleurs, sur le site pour expliquer, un petit peu tout ça, quoi.
Et précisons qu'il jouait sur Cuphead, et bon, c'est un jeu qui est pas encore sorti, mais qui est quand même une réputation d'être assez difficile.
Ouais.
Ouais. Donc, c'est pas un jeu accessible. Bref. Mais à la limite, tu vois, bon, moi, fondamentalement, j'avais pas plus envie de parler de cette polémique parce qu'elle est pas très intéressante. Par contre, je trouve que il y a une question qui est soulevée qui est, elle, intéressante. C'est, est-ce qu'il faut être un bon joueur pour être légitime lorsque tu émets une critique? Même pas que les journalistes, hein. Est-ce que vous, moi, n'importe qui, est-ce que il y a forcément besoin d'être un cador du pad pour pouvoir critiquer pertinemment un jeu?
C'est une question qui est intéressante parce que c'est une question que je me suis pas mal posée personnellement, parce que n'étant pas forcément très doué, pad en main.
Alors arrête de parler, c'est bon, tu peux sortir.
Non, mais c'est vrai, c'est voilà, je sais qu'il y a certains jeux auxquels je ne joue même pas, parce que je sais, un, que je vais pas supporter d'y jouer parce que ça va me saouler, et deux, parce que c'est, enfin, concrètement, je vais pas me forcer à jouer à un jeu si c'est pour voilà, me planter H24. J'ai pas forcément la fibre de certains joueurs téméraires ou talentueux, entre guillemets, pour jouer à certains jeux et donc donner mon avis dessus. Voilà, ça vous paraîtrait hyper bizarre que je vous parle de Dark Souls dans le podcast, par exemple.
Non, pas forcément. C'est que, enfin, je sais pas, enfin, pour moi, enfin, n'importe qui en fait peut jouer à Dark Souls. Et après, c'est juste, en fait, faut pas confondre.
En fait, déjà avec Dark Souls, ça a tendance à m'agacer, ce genre de mon remarque. Je vais m'expliquer pourquoi, parce que je vais le dire une dernière fois, Dark Souls n'est pas un jeu difficile. Il y a un marketing qui s'est mis en place autour de Dark Souls, qui effectivement le vend comme l'expérience ultime du gamer qui veut des jeux difficiles. Alors écoutez les mecs, allez jouer à Battletoads et revenez jouer à Dark Souls, vous allez voir, c'est un autre niveau de difficulté. Voilà. Ça c'est la remarque du mec qui a joué à l'époque de la NES, tu vois, qui sait ce que c'est un jeu difficile. Dark Souls est un jeu, oui, qui est exigeant avec son joueur. Alors, on va me dire, je joue sur les mots, mais non, parce que, en fait, c'est un jeu qui ne demande qu'à être apprivoisé et qui est toujours juste. C'est pas un jeu. Pour moi, un jeu difficile, c'est un jeu où le jeu, il va te piétiner, il va prendre plaisir à le faire, tu vois. Dark Souls, il te punit quand tu fais une connerie, c'est pas pareil.
Ouais, par exemple, un jeu difficile, pour moi, qui est un jeu qui est vraiment difficile, même au niveau de difficulté normale, c'est les Ninja Gaiden qui étaient sortis sur Xbox.
Ah, DH, on communique par télépathie, c'est exactement le même.
Là, c'est un jeu qui demande vraiment un skill et une attention de tous les instants. Je vais vous donner un exemple très concret dans le jeu. On joue donc un ninja qui s'appelle Ryu Hayabusa, qui affronte une horde d'ennemis. Sauf que quand vous affrontez une horde d'ennemis, déjà, il y a plusieurs ennemis qui arrivent en même temps, qui vous encerclent, etc., qui attaquent tous en même temps, ou bien qui essaient de vous attaquer en même temps. C'est pas comme dans Assassin's Creed, chacun prend un ticket pour venir se faire défoncer. Non, là, ils attaquent en même temps, ils esquivent, etc. Il y a même des ennemis qui ont les mêmes compétences que le héros, tu vois. Donc, tu te dis, bah, attends, c'est censé être moi le mec stylé, le mec le plus fort. Mais, tu vois que les mecs d'en face, les mecs de base, hein, ont les mêmes skills que toi. Tu te dis, attends, il y a un problème. Et le pire, c'est que tu coupes les mecs en deux, ils sont en train de ramper par terre, et ils continuent quand même à venir pour essayer de te poignarder dans le dos, alors que toi, t'es occupé en train de te battre contre les autres mecs, ils peuvent te balancer des kunai, enfin, ce genre de choses-là. Les mecs, ils arrêtent jamais. Et là, voilà, oui, c'est un jeu qui
cherche à te baiser la gueule, en fait.
Ah ouais.
Tu vois, c'est le jeu, il cherche à venir te niquer. Voilà. Alors que Dark Souls, c'est le jeu, c'est le maître. C'est-à-dire, il te donne une leçon, tu vois, il te donne un coup, tu retiens, et puis après, tu l'oublies pas, parce que par contre, quand il te donne un coup, ça fait mal. Mais c'est un jeu qui est juste. Bon, alors, ok, il est pas tout à fait juste quand il y a des soucis de collision, tout ça, de hitbox.
On en reparle du abo du crépuscule ou pas? Avec ces infos-là qui te balancent des poisons à la sarbacane.
Voilà, oh oui. Non, mais, ah oui. Non, ça, par contre, c'est vrai que quand il s'amuse à mettre de la plateforme dans un jeu qui est pas conçu pour faire de la plateforme, là, il est pas très juste. C'est vrai. J'ai oublié. Mais ça, c'est les zones pourries.
Ouais.
Pour moi, c'est des erreurs de level design. Enfin, bref, on va pas encore une fois refaire le test de Dark Souls ici. Voilà pourquoi, entre guillemets, moi, quand tu me dis, je me sens pas légitime pour passer ce jeu-là, non. Parce que moi, tu sais, je suis pas bon à Dark Souls, hein. Enfin, réécouter le test de Dark Souls, je rappelle, il m'a fallu 111 heures pour finir. Et moi, je suis pas un bon joueur de Dark Souls. Ma seule qualité en tant que joueur pour finir Dark Souls, c'est que je suis un acharné.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que j'ai la rage, quoi. Enfin, ce qui me plaît dans Dark Souls, en fait, c'est un jeu qui me pousse à me surpasser. Mais sinon, réécouter le test, encore une fois, je n'arrête pas de dire que quand je joue à Dark Souls 3, je me sens vieux parce que j'ai pas les réflexes, tout simplement. Est-ce que je me sens pour autant moins légitime que quelqu'un comme ATH, par exemple, qui maîtrise mieux que moi, par exemple, ou même que des gars comme Yamato Exerve qui arrivent à te finir les Souls en jouant un 2 sur un pad, tu vois.
Et encore, on ne parle même pas encore des catégories qui est au-dessus, qui est les super players et les speedrunners, qui eux te maîtrisent, enfin c'est eux qui maîtrisent vraiment le jeu, quoi, en fait. C'est là, on est au niveau au-dessus, quoi. On est en mode Ligue des Champions, et alors que nous, on est en Ligue 1 ou en Ligue 2, tu vois.
Du coup, est-ce que je me sens moins légitime que ces gens-là? Non, parce que je pense avoir un certain bagage en tant que joueur, c'est-à-dire que j'ai fait un certain nombre de jeux, et que je pense avoir, en tout cas, le minimum nécessaire pour avoir un degré d'analyse, si tu veux, qui est pertinent. Mmh. C'est-à-dire que j'ai joué à suffisamment de jeux pour dire ça, je sais pourquoi cette mécanique elle marche. Ça, cette mécanique qui marche pas, et je vais vous dire pourquoi je pense qu'elle ne marche pas. Ça veut dire pas que j'ai la vérité absolue, etc. Mais ça veut dire que moi, avec mon background de joueur, je me sens légitime de parler de ce jeu, parce que j'ai suffisamment d'exemples dans ma tête pour dire, ok, voilà, pourquoi je pense que ça marche pas, etc. Par exemple, je me sentirais pas légitime pour faire la critique d'un jeu de foot. Tu vois?
Ouais.
Parce que les jeux de foot, j'en fais quasiment pas, c'est un genre qui m'intéresse pas. Je serais incapable de te dire, par rapport à ce qui est sorti sur le marché, qu'est-ce que ce jeu-là apporte. J'en serais parfaitement capable.
Oui, parce que t'as pas le recul nécessaire, et puis c'est un genre que tu pratiques pas du tout. Donc c'est comme si, enfin moi je ferais une critique sur des jeux type puzzle game ou ce genre de choses là, donc c'est des jeux où je n'ai quasiment aucune référence dessus, en fait, à part Tetris, tu vois. Mais Tetris, on va dire, voilà, c'est un classique que tout le monde a joué, mais si tu veux, j'ai pas vraiment le background qui me permet d'appréhender, de savoir qu'est-ce qui fait la caractéristique de ce genre de jeu là, comment ça a évolué, les grandes séries qui en découlent, etc. On a tous un bagage différent dans le jeu vidéo ou même dans la culture, enfin ça c'est un autre sujet. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est pas le skill de la personne qui doit être pris en compte. Il faut qu'elle soit consciente des forces et faiblesses d'une série, parce qu'il y a certains enjeux ou genres de jeux où il y a des choses qui pourraient passer pour des faiblesses techniques ou bien des faiblesses de gameplay, des erreurs de level design dans un type de jeu particulier qui ne seront pas dans ce type de jeu là. Je vais donner un exemple très simple. Resident Evil, premier du nom, qui est sorti sur PS1 à l'époque, c'est un jeu où on contrôle un personnage qui est assez rigide. C'est un jeu où le personnage est lent, etc. Dans un type de jeu d'action, ça serait une erreur de game design, mais le jeu, en fait, a été fait dans cette optique d'instaurer une peur dans les mécaniques de gameplay. Donc, si tu veux, pour le genre de jeu de l'époque, on peut pas dire que Resident Evil, premier du nom, est nul parce que le gameplay ne va pas. C'est juste que le gameplay est adapté au jeu qui est sorti à l'époque et qui raconte une histoire qui est censée faire peur.
Qui cherche à créer une situation de stress chez le joueur et qui fait ressentir que tu joues pas Rambo, quoi, en fait, tout simplement.
Exactement.
Et après, il faut le remettre dans le contexte de l'époque, on n'avait pas encore les sticks analogiques, tout ça, enfin bref.
Exactement.
Il y a toute une série de paramètres à prendre en compte pour expliquer pourquoi ce jeu était comme ça à ce moment-là et pourquoi il ne reste pas moins marquant pour cette époque-là, même si peut-être qu'effectivement il a mal vieilli, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Alors après, je pense qu'il y a un truc où effectivement le fait d'avoir du skill peut être important, c'est dans le cadre professionnel. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu n'as pas un temps illimité pour finir les jeux quand tu es testeur, et que si t'as pas de skill, en fait, tu vas peut-être ne pouvoir que voir la face émergée de l'iceberg, entre guillemets, et que du coup tu ne vas avoir qu'un avis en surface, quoi, si tu veux. Après, ça dépend à qui tu t'adresses, par contre. Quand on dit que, oui, ton avis n'est pas légitime. Oui, il n'est pas légitime, mais par rapport à qui? Par exemple, est-ce que vous croyez que l'avis du hardcore gamer qui va te finir n'importe quel jeu de plateforme une main dans le dos, il est pertinent pour quelqu'un qui est un noob total dans les jeux de plateforme?
Ben oui, c'est vrai que ça n'a pas de pertinence en fonction du public que tu vises.
Voilà, c'est ça.
Tu vois, ça va être la même chose avec les youtubeurs, en fait. C'est les gens qui sont relativement catégorisés dans le multigaming, entre guillemets, donc ils vont être à peu près bons en tout, mais qui vont pas être excellents partout, tu vois. Et t'as des gens, au contraire, qui vont être excellents à un seul type de jeu, ou voire à un seul jeu tout court, et du coup qui vont intéresser un type de public bien différent. C'est pas la même chose avec les journalistes qui, eux, vont effectivement avoir des genres de jeux de prédilection, mais qui sont quand même amenés par la force des choses et par la force du métier, à évoquer des types de jeux qui sont pas forcément des jeux de prédilection. La seule différence, c'est le public, quoi.
Par contre, ce qui est important, pour le coup, c'est de savoir d'où parlent les gens. Et je trouve que ça, c'est parfois un problème qu'on a avec les journalistes, mais pas que. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, la critique, c'est aussi beaucoup des youtubeurs. Et souvent, tu ne sais pas d'où parlent ces gens-là. Et le problème, c'est que je trouve que comme on a une tendance à sacraliser le test, c'est-à-dire que en fait, je sais pas, pour une raison qui m'échappe, on a tendance à considérer qu'un test, c'est objectif. Enfin, en tout cas, ça doit tendre vers l'objectivité. Mmh. Alors qu'il n'y a rien de plus subjectif qu'un avis, quoi.
Ouais. Je vais prendre un exemple avec Deadly Premonition. Donc, c'est un jeu qui était sorti à l'époque, comme ça, en catimini sur Xbox 360. Et c'est un jeu qui était dégueulasse à voir visuellement. Qui était un jeu qui datait... Enfin, visuellement, c'était un jeu PlayStation 2. Les déplacements du personnage étaient rigides. Tu te dis, c'est pas possible, quoi.
C'est une chiasse. C'est une chiasse, hein. Voilà, c'est, si tu prends le jeu brut de décoffrage comme ça, et que, voilà, c'est de la chiasse, quoi. Et t'essaierais de faire une critique objective dessus, ben, 0 sur 10, quoi. Voilà. Parce que... Et c'est une catastrophe à tous les niveaux en termes techniques.
C'est pas un plaisir, si vous voulez, à y jouer pas dans main. Pourtant, c'est un jeu qui a eu des plutôt bons retours de la part des gens qui ont joué. Pourquoi ? Parce que c'est un jeu qui a été considéré un peu comme un nanar et un ovni vidéoludique. C'est quand même intéressant à ce que vous suivez ce jeu-là pour des raisons qui sont...
Autrement subjectives.
Exactement.
Tu vois qu'il y a un problème sur l'objectivité, quoi, quelque part. Mmh. Pour moi, c'est impossible de prétendre être objectif, à moins d'être un super humain qui connaît tout. C'est pas possible. Donc, il y a forcément une part de subjectivité là-dedans qui est assez importante. Et le problème, c'est que, comme on a tendance à sacraliser la note et à dire un test, c'est objectif, machin, mes couilles, quand un testeur note mal un jeu, par exemple, ou quand il le note trop bien, soi-disant, on a tendance à le prendre mal, parce que du coup, il s'attaque à un jeu qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé. Mmh. Du coup, il nous impose son avis. Il dit, voilà, moi, autorité, j'ai décidé que ce jeu, il valait 7. Scandale, ce jeu, il vaut 9, minimum. Je n'accepte pas votre avis, machin. Mais justement, ça n'est que l'avis du mec, en fait. Et c'est ça le problème, peut-être qu'il y a dans la presse aujourd'hui, mais pas que. C'est que on a tendance à mettre sur un piédestal les testeurs, en fait. Alors que fondamentalement, moi je suis désolé, c'est des gars comme les autres, alors peut-être qu'ils ont une culture plus importante que les autres, en tout cas j'ose l'espérer, parce que ça pour le coup, c'est à mon avis beaucoup plus important que le fait de savoir bien jouer ou pas. Mm-hmm. Voilà, il faut juste arrêter de mettre les gars sur un piédestal et prendre leur avis pour ce qu'il est, quoi. Un avis, point.
Exactement.
Moi je sais par exemple que monsieur Pouillot chez Gamecult n'aime pas Skies of Arcadia, qui est mon jeu préféré. Voilà, j'en fais pas un drame. Par contre, je sais que le jour où il fera un test d'un jeu, faudra que je prenne avec ma pincette son avis, parce que il y a de fortes chances que je sois pas du sien, quoi. Parce que, a priori, on a des goûts assez fondamentalement opposés sur certains points en matière de JRPG.
Et par contre, il y a certains éléments objectifs qui peuvent être vus et critiqués par tout le monde. La technique d'un jeu, un jeu qui rame, un jeu qui est moche, un jeu qui est aliasé. Là, oui, là, si tu veux, on peut être plus ou moins objectif par rapport à ça.
Ouais, mais ça, tu vois, c'est superficiel. Enfin, en fait, tu vérifies si la bagnole elle marche.
Oui, non, mais c'est
le
ça.
Truc, c'est que un test, les 50% qui restent, c'est est-ce que la bagnole elle me plaît en fait. C'est ça le truc.
Mais oui, mais après, moi, un test, je le vois vraiment comme quelqu'un qui a joué un jeu et qui essaye de convaincre pourquoi ce jeu est bien, tu vois, ou bien qu'il n'a pas aimé. Il doit donner des arguments en fonction de ce qu'il aime ou de ce que lui n'a pas aimé. C'est comme toi, tu vas voir un film que ton pote a super apprécié, mais toi, t'as pas trouvé la même chose parce qu'il t'a pas touché de la même façon.
Ouais, mais ça, tu vois, on a énormément de mal avec ça dans le jeu vidéo. Enfin, c'est un fait. Hein. Après, Mandraine, je sais pas ce que t'aurais à dire sur le cinéma, mais moi, la perception que j'ai d'autres médias comme le cinéma, c'est qu'on a quand même tendance à un peu mieux accepter des avis divergents que dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, dès qu'une note elle dévie d'un point de ce qu'on attendait, c'est l'apocalypse.
Ouais, mais il y a qu'à regarder
c'est
juste
la grande
les notes.
Différence.
Les notes. Ouais. J'ai jamais personne n'est d'accord. J'ai jamais vu un jeu qui a 8 sur 10 et que les notes tournent que entre 7 et 9, tu vois. Il y en a qui vont mettre 1, il y en a qui vont mettre 0, il y en a juste parce que pour le faire plaisir, ils vont mettre 5. Enfin, c'est impossible que tout le monde soit d'accord sur tel ou tel point. Par exemple, il y a quelqu'un qui va te dire, ouais, le scénario de ce jeu, il est génial, il est magnifique. Mais l'autre, il va te dire, non, mais le scénario, il est tout pourri, tu rigoles ou quoi? Il a été pompé sur ça. Moi, je connais l'œuvre originale, j'ai pas trop apprécié. Enfin, c'est pas possible. Après, il y a certains jeux qui nous touchent plus que d'autres. Enfin, c'est vraiment une question de sensibilité de tout le monde, et les goûts, les couleurs, quoi.
Mais c'est la grande différence qu'il y a entre le jeu vidéo et le cinéma, sur le, voilà, un point sur lequel tu voulais me faire parler. C'est que le jeu vidéo, on l'apprécie. Enfin, la presse l'apprécie via sa note. Et le public est amené aussi à donner son avis par rapport à la note qui lui a été donnée, ou même à donner lui-même sa propre note. Dans le cinéma, ça ne se fait pas. Et du coup, t'es bien obligé d'écouter ce que le mec a à dire sur le film, que ça soit argumenté ou pas, pour ensuite pouvoir réagir.
Ouais, parce que par exemple, quand tu regardes une vidéo du Faux Soir des films, le mec, il termine pas sa vidéo en disant « Alors moi, ce film, j'y mets 5 sur 5, parce que... »
C'est ça.
J'ai jamais vu ça dans une vidéo du Faux Soir des films.
5 spells sur 5.
C'est-à-dire que avant même de pouvoir réagir par rapport à ce qu'a pensé la personne du film, t'es obligé d'écouter au moins, ne serait-ce que quelques minutes, ce qu'il a à dire dessus. Déjà, ça, c'est une différence fondamentale, puisque dans le jeu vidéo, la plupart du temps, en tout cas si tu regardes les sites les plus influents du milieu, pour critiquer, les mecs ont juste besoin de lire une seule chose, c'est un chiffre. Alors qu'en réalité, si tu regardes autre chose que la note, les mecs ont probablement un avis relativement sensé sur certains points, tu vois. Je vais pas vous dire que dans le cinéma, il y a des mecs qui ont des avis plus mesurés que certains. Dans le jeu vidéo, c'est pas le cas, parce que je suis plutôt bien placé pour savoir que certaines personnes ont des réactions disproportionnées par rapport à ce que tu dis ou pas.
Je rappelle quand même que ta chaîne, hein, tu parles beaucoup de films, tout ça.
Ouais.
Donc
Que ça soit dans le positif comme dans le négatif. Hein. C'est-à-dire que si tu dis une chose, t'auras forcément quelqu'un qui pense l'exact opposé. Et ça vaut dans le cinéma comme dans le jeu vidéo. Hein.
Oui, mais par contre, il va se focaliser sur un truc que tu as dit. Ce qui est déjà un progrès absolument fabuleux par rapport à certaines critiques qu'on peut avoir dans le jeu vidéo, quoi. Enfin, déjà, on met les notes sur un piédestal. En plus, il y a l'interaction, forcément, il y a un peu de skill qui est impliqué dedans. Donc, du coup, il y en a qui pètent un peu plus haut que les autres, tu vois. Et qui se disent, ah ouais, moi je sais jouer, contrairement à ces connards là. Sais jouer, mais ça veut pas dire pour autant que t'as compris pourquoi t'avais apprécié le jeu. Hein.
Le fait que tu fasses quelque chose, plutôt que tu ne fasses que regarder, et que tu détectes que quelque chose est relativement difficile ou que pas tout le monde est capable de le faire, va te faire bomber le torse, tu vois, tu te sens fier. T'as... Tu te dis...
Ah, moi, j'ai fini Dark Souls, hein, attention.
C'est ça.
Et, ah oui.
Et du coup, tu te dis, bon, si pas tout le monde est capable de le faire, ça veut dire que, finalement, je suis un peu dans le haut du panier.
Ouais, je suis un peu l'élite, quoi, tu vois.
Voilà. C'est... Du coup, je vais être capable de dire à tel mec qui joue à tel jeu, qui est clairement pour les casus, casu égale jeu auquel je ne jouerai jamais parce que c'est trop facile, ou parce que c'est pour des joueurs qui ne savent pas jouer, je vais être capable de leur dire, mais écoute, t'es vraiment une merde parce que toi tu joues à ces jeux-là et t'es pas capable de jouer au jeu auquel moi je suis capable de jouer.
Et en plus, si tu oses jouer à un jeu auquel je joue, je te dirais que ton avis n'est pas valable parce que tu ne sais pas jouer.
Ouais.
Donc
on en vient à l'élitisme qui, voilà, est partie prenante d'un certain milieu du jeu vidéo et... Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné à l'époque où je faisais beaucoup plus de jeux vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est que je me suis auto-nommé le roi du fail, et c'est pas pour rien, parce que je fais souvent des choses qui sont très connes et je m'en rends compte après. Parce que, que ça soit un problème de coordination, un problème de réflexion, un problème, ou de malchance, parce qu'il y a clairement de ça aussi. Il y a eu des moments où j'en avais honte. Tu sais, je me disais, mais putain, je peux pas montrer ça aux gens. Ou quand c'était en direct, je me dis, putain, j'ai montré ça aux gens, les mecs vont se foutre de ma gueule. Et ça manquait pas à chaque fois. Les gens se foutaient de ma gueule.
Ouais, mais après, il y a se foutre de la gueule de quelqu'un parce qu'il fait, c'est drôle. Et,
voilà.
Mais tu penses pas non plus que, ah, regarde ce connard, il est...
C'est ça.
C'est pas tout à fait la même chose.
Il y a le truc, c'est que, voilà, j'ai fini par m'en détacher parce que il y a aussi le côté bon enfant. Tu te fous toi-même de ta gueule et les gens, du coup, s'en amusent aussi. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelait Stairway to Fail, où je faisais exprès de me mettre dans une position où je savais qu'il allait y avoir du fail, parce que je trouve ça rigolo, et que du coup les gens ont trouvé ça rigolo aussi. Mais il y a le fait que je sais très bien que s'il y a un mec un peu élitiste qui vient là-dedans, il va me chier à la gueule, tu vois. Voilà, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Il faut apprendre aussi à comprendre qu'il y a des gens qui s'amusent sans pour autant être des dieux de la manette, tu vois. Et ça, c'est aussi prendre conscience de la multiplicité du joueur d'aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que oui, effectivement, tout le monde n'est pas capable de finir Dark Souls, ou tout le monde n'a pas envie de finir Dark Souls, c'est mon cas, ou en tout cas pas tout de suite, mais on est tout à fait capable aussi de s'amuser en jouant à un jeu vidéo.
Alors après, c'est vrai que sur certains jeux qui demandent pour le coup un investissement, ton avis ne sera pas pertinent vis-à-vis de gens qui cherchent à savoir qu'est-ce que le jeu a dans les tripes, en fait, quoi, si tu veux. C'est-à-dire, imaginons Virtua Fighter, simulation de combat, t'es pas foutu d'aligner les trois coups. Bon, oui, effectivement, là je comprends, ton avis n'est pas pertinent pour le public qui cherche à savoir en quoi ce jeu est exceptionnel pour un jeu de combat, qu'est-ce qu'il apporte au genre. Mais par contre, ton avis, je suis sûr qu'il intéressera beaucoup quelqu'un qui a un noob total au jeu de combat. Qui se dit alors Virtua Fighter, Morgan, t'en as pensé quoi, toi? Par contre, là, ce qui est vrai, c'est qu'il faut être transparent de là où tu te places, en fait. C'est-à-dire que si un mec prétend être un dieu à la manette et que derrière c'est il dit ouais, mais c'est de la merde, et puis là, c'est la totale mauvaise foi, et du coup, tu donnes une image faussée du jeu, quoi, en fait. Tu te fais passer pour un mec qui maîtrise son sujet, quoi. Et derrière, tu racontes que de la merde parce qu'en fait, t'as pas effleuré ne serait-ce que le dixième de ce que le jeu a à offrir, quoi.
Mais là où c'est hyper intéressant avec, du coup, la multitude d'avis qu'on est capable d'avoir sur Internet, que ça soit de la presse, que ça soit des journalistes indépendants, que ça soit des youtubeurs ou des streamers, c'est que le public lui-même va être capable de se rendre compte de la personne qui a un avis le plus proche du sien. C'est-à-dire un mec qui a un profil qui te ressemble. Et ça, c'est intéressant. Typiquement, j'ai pas le même public qu'un mec qui va jouer à PUBG, par exemple, tu vois. J'ai pas le même public qu'un mec qui va être un dieu à Hearthstone. Tout avis argumenté est intéressant. Mais faut juste savoir...
Argumenté et honnête.
Voilà.
Important.
Bien sûr. Mais il faut juste savoir à qui tu t'adresses.
C'est ça.
Et surtout, moi je pense que c'est intéressant aussi, par exemple, dans des types de jeux qui nécessitent du skill. Par exemple, les jeux de combat, comme tu parlais tout à l'heure. Moi, je pense que je serais incapable de faire une critique, par exemple, de Street Fighter V pour le des gens qui veulent faire de la compétition. Mais par contre, je pense que je peux quand même donner un avis sur Street Fighter V dans la mesure où j'ai joué à Street Fighter depuis plusieurs générations, mais sauf que je suis pas très très bon, si tu veux, face à d'autres adversaires, ni même face à l'IA. Des fois, j'arrive à me faire...
Ouais, mais tu donnes ton avis du mec qui achète Street Fighter juste pour s'amuser dessus, qui va pas tryhard comme un fou en ligne. Il y a plein de gens qui sont comme ça. Je suis même persuadé, la majorité des gens qui achètent Street Fighter sont comme ça, quoi. J'en suis persuadé.
Par exemple, moi, si je devrais faire un test sur Street Fighter V, je vais regarder les modes de jeu qu'il y a, les personnages, essayer de voir si les mécaniques fonctionnent plutôt bien, enfin, du moins celles que j'appréhende. Mais par contre, tu vois, je vais donner mon avis, je vais dire, ouais, bon, alors le jeu, moi, je trouve qu'il est pas mal parce que il y a ça, il y a ça. Mais après, pour tout ce qui est compétitif, etc., il faudra voir sur le long terme. Mais par contre, voilà, moi, je peux pas parler de l'expérience à haut niveau si le jeu va fonctionner, si les mécaniques sont bien pour être à haut niveau. Moi, je prends ça comme un loisir. En fait, quand je joue à Street Fighter, c'est comme un divertissement. Je suis pas là en train de m'entraîner à essayer de faire des shuriken, et j'y joue de manière casu à ce type de jeu-là. Mais par contre, je vais pas être là de dire ouais, ça c'est bon, bah pour la compétition, c'est le digne héritier de Street Fighter Strike, tu vois, parce que les mécaniques de combo sont comme ça. Non, là ça serait du mensonge pur et simple. Je vais te dire ce que j'ai ressenti par rapport à ce jeu-là. Par contre, je pourrais pas avoir un avis constructif sur l'e-sport, quoi.
Voilà. Bon, pour conclure, du moment qu'un avis est sincère, qu'il a pas prétention à dire ce jeu c'est de la merde et c'est comme ça, c'est mon avis, j'ai autorité sur la question et je vous emmerde. Honnêtement, je vois pas ce que le skill vient faire là-dedans. Voilà. Si des gens avaient beaucoup plus de capacité d'analyse et peut-être un peu moins de skill, ça serait pas plus mal. Voilà. Allez, je vous propose qu'on s'arrête là pour cette semaine et qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Salut tout le monde.
Ciao.